C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, nous avons à Montréal une escouade Airbnb, ou en tout cas une escouade du genre, qui a donné 19 constats d'infraction à des contrevenants depuis le mois de juillet. Et là, la ville dit, nous manquons de moyens pour faire plus. Alors, est-ce qu'il faut donner plus de moyens à la ville? Luc?
Oui, puis il faut... Tu sais, au primaire, quand les enfants chicanent, là, ils apprennent à dire, faut que tu envoies à l'autre un message clair. Là, les enfants apprennent ça très tôt dans leur vie. J'ai envoyé un message clair, papa, parce qu'il m'a donné un coup, il m'a mordu, j'ai envoyé un message clair. Mais le gouvernement n'a jamais envoyé un message clair sur Airbnb. C'est parce que s'il y a trois paliers, ben, il y a deux paliers de gestion, puis il y a trois types de contraventions. Le premier type de contravention, c'est celui qu'il y a toujours eu, qu'il y avait avant que le gouvernement s'implique, c'est municipal. Le municipal peut décider, t'as pas le droit sur telle rue, t'as pas le droit sur telle rue, OK? Et puis, il y a des quartiers comme le Plateau Mont-Royal, Rosemont, Verdun, etc., qui ont vraiment tapissé des interdictions partout, partout, partout. Il reste des petits bouts de rue où t'as le droit à Mont-Royal, Saint-Denis, Saint-Laurent, pas. Là, ça, c'est le premier palier. Pour les attraper, il faut que tu prennes des photos à l'intérieur qui matchent les photos qu'il y a sur l'application. Ça, c'est pas facile déjà. Parce que des fois, ils trichent sur les photos d'application. Puis je te dirai pas sur tout sur quoi ils trichent parce que je veux pas leur donner de trucs. Mais là, faut t'aider ces photos-là. Après ça, tu t'en vas en cours. Puis là, le gars de dire, ben non, monsieur le juge, c'est ma belle-mère qui habitait là. Non, moi, c'est juste ma famille qui va là. Mais là, t'as pas la preuve que c'est juste la famille. Fait que tu perds en cours. Imagine-toi comment est-ce que la cour a la vie facile, elle. T'sais, l'inspecteur, là, c'est hors de tout doute raisonnable, comme si l'autre avait commis un crime au premier degré. Premier mensonge qui dit, clink, si la contravention tombe. Ça, c'est la deuxième affaire. Ensuite de ça, est arrivé un autre niveau de gestion de cette patente-là. C'est quand le ministère du Revenu s'est dit, ah, on peut pas l'interdire à l'échelle provinciale, mais on peut faire de l'argent, par exemple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer que les revenus doivent être déclarés. Si les revenus sont pas déclarés dans la déclaration de revenus du propriétaire de cette maison-là, il y a une pénalité. Il y a une deuxième possibilité de faire de l'argent, c'est de déclarer que ce local-là est commercial, parce qu'il est utilisé à un usage commercial. Et donc, lors de la vente du bâtiment, le gouvernement va récupérer la part de l'impôt qui est généralement liée à la valeur ajoutée, le gain en capital non imposable lorsque c'est du résidentiel. Là, il va devenir imposable parce que c'est du commercial. Fait qu'il y a deux sources de revenus. Puis pour ces deux sources de revenus-là, il a foutu dans la loi un truc qui dit « Il faut que j'ai la garantie que ce lieu-là n'est pas la résidence principale. » Or ça, bonjour Obélix et Astérix chez les Romains, parce que la résidence principale au Québec, tu peux la changer tous les ans. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, tu peux la laisser pendant 4 ans à une ancienne adresse. Ça, c'est numéro 2. Alors, c'était impossible à gérer. Et résultat, sur 340 déclarations à Montréal, il y en a eu un qui s'est fait mincer.
Un élément de contexte, il y a 30 000 locations Airbnb au Québec, dont 10 000 à Montréal. Deuxièmement, si les inspecteurs du ministère du Revenu parlaient aux enquêteurs de la ville de Montréal, déjà, ça assurait une certaine cohésion et ça permettrait de multiplier l'action. Mais rassurez-vous, il n'y a pas qu'au Québec où ça se passe comme ça.
C'est vrai.
À Paris, où on lutte depuis 10 ans contre les Airbnb légales, on dit que le tiers des dossiers qui arrivent en cours sont déboutés. Troisièmement, ça prend 3 mois avant de constituer une preuve qui va convaincre un juge de donner une contravention. Et en France, ce que les enquêteurs font, à Paris en particulier, c'est qu'ils épluchent des petites annonces. Puis là, ils partent le matin, là, en gang, là, mettons qu'ils sont une dizaine d'inspecteurs, et là, ils ont une cocarde dans le cou, et puis là, ils vont cogner aux portes. Puis, ben, vous, monsieur, là, vous êtes en vacances. C'est drôle parce que je lisais un article, je me souviens plus dans quel média, pour raconter l'histoire de deux Québécois qui se sont fait prendre par des inspecteurs à Paris. Puis là, ils ont, ben, là, ils questionnent, vous faites quoi ici, etc.
Comme ils se sont jamais compris, ils ont plus parti.
Non, mais tout ça pour dire que le mécanisme de preuve fait en sorte que c'est extrêmement compliqué de démontrer qu'il y a une faute qui a été commise. Mais moi, ce qui me fascine dans ce dossier-là, c'est la propension, puis je ne vais pas généraliser, mais qu'on semble avoir au Québec, on a développé une espèce de fibre pour contourner les lois. T'sais, on aime ça contester l'autorité.
Un peuple de farce et attrape, je te l'ai dit l'autre fois.
J'adore cette expression. Un peuple de farce et attrape, effectivement. Mais parce que c'est loué au noir. T'sais, parce que la règle de base, c'est que ça te prend ton numéro d'enregistrement auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Ça, c'est la base. T'sais. Ça te prend ton numéro d'enregistrement. Si t'as pas ça, ben je regrette, mais t'es considéré comme faisant de la location légale. Il y a des gens qui se sont fait pincer par Revenu Québec, puis là, ils se demandaient, mais j'ai pas eu d'avertissement, puis je me suis retrouvé avec une contravention de 2 500 $ parce que c'est ça, la contravention de base. Mais Revenu Québec, les amis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Pas besoin d'avertissement. Là. Ils débarquent chez vous, puis ting, c'est fini, là, c'est terminé, on passe à un autre appel. Alors, c'est très, très compliqué, et à Montréal en particulier, parce que le tiers des locations, puis c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est important, sur le 30 000 Airbnb au Québec, là, dont 10 000 à Montréal, ça, c'est des données qui datent de mars 2023 quand même, 79 % n'étaient pas certifiés. Donc, illégal. Fait qu'on a-tu du travail à faire, les amis?
Et mars 2023, c'est pas banal, là. C'est la date anniversaire, en fait, il y a un an, l'incendie dans le Vieux-Montréal. Là. C'est pas mal là que tout a déclenché.
Exactement.
Oui, ben c'est là que le gouvernement du Québec s'est dit, OK, je vais aller un peu plus loin que juste essayer de récupérer les revenus illégaux. Et là, ils ont mis un règlement qui dit, lorsque tu mets l'affichage d'un site, d'un chalet ou d'une maison, ben, t'es obligé de mettre ton numéro de CITQ sur le site. T'étais obligé de le faire depuis longtemps. Mais on va forcer les plateformes à retirer les numéros, les annonces où il n'y a pas cette annonce-là. Puis là, évidemment, tout le monde a mis des faux numéros. Hein, le 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, moi, je me rappelle là, quand on a commencé, nous autres, à fesser dans le tas, parce que c'est encore ça chez date. Nous que ça a commencé, cette patente-là, il y a 15 ans. Puis ben, chez nous, puis dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec. Puis,
chez nous, c'est sur le plateau, ça.
C'est chez nous.
Oui, c'est sur le plateau. T'as un grand sentiment d'appartenance.
T'avais pas, un propriétaire d'immeuble qui avait même un service de conciergerie.
Ben oui.
Pour un Airbnb.
Avec des jolies demoiselles.
Oui.
Ah ben toi, table de bière. Tapis rouge, on ouvre le champagne.
Non, mais table de bière, sauna. Puis c'était annoncé à Toronto comme étant un site de enterrement de vie de garçon. Fait que là, bonjour les voisins. Hein. Bonjour les voisins. Les gars, sur le toit avec des bouteilles de vodka en caleçon.
C'est du grand n'importe quoi.
Non, mais attends, il y a de tout. Nous autres, on avait un site. Le gars, il annonçait 17 chambres. C'était un 5,5 ordinaire.
C'était un hôtel.
C'était un 5,5 ordinaire.
Un 5,5, il annonçait?
17 chambres, 17 lits. Mais c'était des lits à étage qu'il avait construit lui-même parce que ça n'existe pas sur le marché. 4, un par-dessus l'autre, dans des grands garde-robes. T'avais comme une sorte de grand garde-robe.
Attends, là, dans un 5,5, il louait 17 chambres.
Oui. Puis le gouvernement, ça en est tout le temps tellement... C'est du tellement foutu, là, que la firme qui faisait ça recevait des subventions du gouvernement du Québec pour développer une application pour les Airbnb. Non. C'est pour ça que je sais qu'il n'y a pas eu de message clair pendant des années. Hein.
Ouais, mais là, la ministre a adopté, Caroline Proulx, une loi que j'ai saluée. Mais ce que le Québec ne fait pas, contrairement à la France, c'est qu'en France, on n'hésite pas, on n'a pas hésité à poursuivre Airbnb. En 2020, 2021-2022, ils ont été condamnés à payer 8 millions d'euros. C'est quand la maison mère se fait pointer du doigt puis doit sortir de l'argent de ses poches, peux-tu vous dire une chose, que le message qui est envoyé aux troupes sur le terrain, c'est essayer de vous conformer, là, parce que nous, on est obligé de payer pour vos niaiseries sur le terrain. Airbnb ne va pas jusqu'à encourager ses membres à contourner les lois.
Mais il se voit comme un diffuseur d'annonces.
Oui, ben exactement, c'est ça. Sauf que, honnêtement, si on faisait comme
Uber.
La France...
Uber, je vois pas comme une entreprise de transport, je vois comme une plateforme pour mettre en lien le client et le
Pornhub.
Chauffeur.
Pornhub, ce matin, les États-Unis qui essaient d'exiger de Pornhub que deux de ces... Il y a une extradition aux États-Unis parce qu'il y en a deux qui sont poursuivis pour avoir diffusé du matériel pédopornographique. Eux disent, nous autres, on est juste une plateforme. Là. C'est les autres qui ont mis ça sur notre site. Nous autres, on n'a pas rapport.
Mais ce qui me fascine, j'ai reçu M. Doré ce matin, là. Tu dis, OK, là, des parties prenantes, OK? T'as l'escouade Airbnb. Ensuite, t'as le ministère du Revenu. T'as le ministère du Tourisme, pour être sûr que le numéro est là, puis tout ça. Puis là, si, je dis, par exemple, là, allusion au Vieux-Montréal, vous découvrez qu'un Airbnb, il n'y a pas de fenêtre, que ça. Y a-tu quelqu'un qui fait un suivi?
Ah, ben là, ça,
oui, mais les inspecteurs municipaux.
C'est un autre département qui prend la relève.
Oui,
c'est ça.
Oui,
c'est
ça. Là, ça se promène, là, tu comprends?
Ben oui, c'est
puis
clair.
Là, j'ai dit, OK, mais...
Tu sais, il y en avait 1000 dans le Vieux-Montréal. Il y en avait 1000.
Airbnb?
Oui.
J'ai dit, n'avez-vous trouvé qu'il n'était pas conforme, qu'il était insalubre, qu'il n'y avait pas de sortie de secours? On sait pas.
Pas de réponse.
Non.
Mais ce truc-là, là, donc, tu donnais l'exemple de Paris, où c'est l'État français qui a poursuivi. Mais ici, c'est pas comme ça.
C'est
les deux niveaux, puis les deux niveaux.
C'est beaucoup de monde ici. C'est lourd. Ça avance pas vite, là.
Ben, est-ce qu'on est étonné? C'est lourd. Est-ce qu'on est surpris?
Puis aussi, parce que le gouvernement a pris du temps à comprendre les impacts. Tant que ça restait dans les limites de la rivière des Prairies, puis du Saint-Laurent, c'était pas grave. À une minute que ça a dépassé l'autre bord, dans le reste du Québec, là, oups, là, ils ont commencé à comprendre. Ah ouais, OK, Saint-Féréol-des-Neiges, il y a...
tu donnes l'exemple de Saint-Féréol-des-Neiges, c'est très intéressant. Savez-vous combien il y a de pourcentage de location court terme à Saint-Féréol-des-Neiges?
Ça doit être effrayant.
22%, ben oui, petite communauté, la communauté d'Alex Harvey que tu as accueilli tantôt. Écoute, Saint-Adolphe-d'Harvard, c'est plus de 17%. Hey! Ouais. C'est des petits villages, c'est pas gros, là.
Mais je sais plus dans quelle ville, je pense que c'était Lisbonne.
Lisbonne. Plus personne n'est capable de payer son loyer à Lisbonne. La plus grosse croissance de coût de loyer, c'est Lisbonne, en Europe.
Mais écoute, t'avais dans le centre de Lisbonne, là, c'était un guide qui nous disait ça, des bureaux, puis des Airbnb. Puis des logements, des gens qui vivent là, il n'y en a pas.
C'est incroyable.
C'est parce que c'est trop cher. Puis la seule façon, c'est d'être propriétaire d'un logement puis de le mettre en location comme ça à court terme.
Mais,
les gens vivent ailleurs. Mais le centre de Lisbonne, là, la grande place, si on veut, il n'y a plus de citoyens dont c'est la résidence principale.
Et Barcelone s'est fâché pour la même raison. Là. Barcelone...
Mais en même temps, là, si on est ceux et celles qui utilisent... Et Québec, ceux qui utilisent les Airbnb, ils sont tous coupables de ça. Là. Je veux dire, on est là, puis on...
Ben, il faut que tu te renseignes pour savoir si c'est légal. Il y en a des Airbnb légaux. Il y en a, ça existe.
Oui, voilà.
Tu as le droit de louer légalement ton chalet.
Ben,
puis attends, si tu le loues légalement, il faut que tu aies ton numéro de CITQ, que tu payes les frais qui sont reliés à ça. Après ça, tu déclares les revenus au ministère du Revenu. Tu payes une taxe supplémentaire à ta municipalité, puis tu payes des assurances supplémentaires.
Exact.
Donc, si tu fais tout ça, t'es légal, t'as le droit, puis c'est une bonne chose que si tu veux le faire. Mais fais tout ça, par exemple.
Puis là, tu vas te demander si ça vaut la peine de faire ça après.
Oui, mais je pense que généralement, mettons que le gars qui a un chalet à Saint-Sauveur, je pense qu'il rentre dans son
argent. Pour le rentabiliser, absolument, tout à fait.
En parlant d'argent, 11 milliards. Hier, on a appelé M. Girard et M. Legault les kings du déficit. Est-ce que c'est raisonnable un déficit à 11 milliards? On en parle après la pause.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, juste vous dire, à Québec, le juge Delisle, c'est pas encore fait formellement, mais le terrain d'entente entre la défense et la couronne, c'est un plaidoyer d'homicide involontaire coupable. On parlait plus tôt ce matin d'un scénario possible qui était d'avoir encouragé au suicide, ce qui aurait été le cas le moins lourd, mais là, homicide involontaire coupable. Donc, on verra quelle sera la nature de l'entente comme telle. Et surtout, est-ce que ça couvre les 9 ans de prison qu'il a déjà purgé, sans doute. On verra pour la suite. Bon, le budget. M. Legault a dit 2 choses hier. Il a dit d'abord que le budget, 11 milliards de déficit, c'est raisonnable. Et que deuxièmement, si la CAQ a un troisième mandat, les dépenses sous contrôle vont permettre une baisse des impôts.
Duplessis donne à sa province.
Ça dépend s'il y a un troisième mandat. Et ils se sont fait qualifier hier de king du déficit.
Hey, le king, ça c'est mon homme.
Bon, Nathalie.
Le king, c'est mon homme.
Est-ce qu'il y a raison de dire que c'est raisonnable?
Oh, M. Legault devrait faire dans le stand-up comique, les amis, là. Parce qu'honnêtement.
Avec l'aide de Richard.
Avec l'aide de Richard, pourquoi pas? Impresario, Richard Marquis. Non, mais honnêtement, aïe. Ben, tout d'abord, Palme d'Or cette semaine pour cette citation, le king des déficits, là. C'est Marc Tanguay hier à l'Assemblée nationale, qui a affublé M. Legault de ce titre. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire à quel point les politiciens détestent ce genre de formule, parce que rapidement on dépeint ses adversaires en utilisant des images fortes. Rappelez-vous, Mario Dumont, à une certaine époque, avait été on l'avait traité de girouette, puis ça l'avait suivi durant toute la campagne électorale de 2007, si ma mémoire m'est fidèle. Alors là, le king des déficits, probablement que c'est une image qui va coller à la peau de Monsieur Legault. Il était d'ailleurs en colère hier à l'Assemblée nationale. Je devrais faire du stand-up comique, parce que honnêtement, qualifier un déficit pour une année de raisonnable, on n'a pas la même conception de la définition de ce qui est raisonnable. Puis deuxièmement, c'est un peu c'est une insulte à notre intelligence, on va le dire comme ça. L'autre chose, parce que en passant, il aurait pu dire ça autrement. Il aurait pu dire, écoutez, c'est vrai que c'est beaucoup. Il aurait pu dire aussi, on admet que c'est un grand défi pour notre gouvernement. Mais plutôt que dire ça et de faire une certaine forme d'admission, ce qu'il a dit, c'est, comparé au pourcentage de notre PIB, tout va bien, Madame la Marquise. Il y a même des gouvernements, dit-il, dans le passé, qui, ratio déficit PIB, était plus important que nous, ce qu'on a fait. Ben là, j'ai envie de dire, Monsieur Legault, voulez-vous qu'on vous donne, c'est ça, une médaille d'or? Voulez-vous qu'on vous donne le premier prix, un coup parti? Et tu as référé, Paul, et moi, j'ai été étonné de ça. Il en a ajouté une couche en disant, ben, si on est au gouvernement un troisième mandat, ben là, on va baisser encore les impôts. Alors, tu dis, ben non, Monsieur Legault, vous vivez sur quelle planète, là? C'est du grand n'importe quoi, là. Écoute, on est dans le trou, là. Puis pas 11 milliards, je le rappelle, c'est pour une année, là. 2023, l'année financière, là, qui s'est terminée, là, c'était un peu plus de 6 milliards. Cette année, 24-25, on se disait presque 11 milliards. L'année prochaine, ça va être 8 milliards. Hey, écoute, on s'en sort pas, là. On s'enlise, là, plutôt que d'essayer de se sortir la tête autour de l'eau. Honnêtement, pour moi, c'est une occasion manquée pour M. Legault sur le plan politique.
T'sais, moi, je comprends que, on comprend tous d'ailleurs qu'il y a eu une pandémie, on comprend qu'il y a une récession, on comprend qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, puis on comprend qu'il y a augmenté les salaires en santé et en éducation. Ben, c'est correct. Tout ça, c'est correct. Mais ce qu'on comprend pas, par exemple, c'est qu'il n'a pas été capable de trouver des solutions d'augmentation de revenus ou de diminution des dépenses au fur et à mesure que tout cela se produisait. Il n'a jamais dénié écouter le moindre conseil en ce sens. Lui, là, faisait du surf sur le surplus qu'il avait reçu, puis sur les budgets, les surplus qui rentraient de 2019, 2020, 2020. À chaque fois, il sous-évaluait le surplus à chaque fois. Parce que c'était tellement des gros surplus qu'ils en revenaient pas eux autres même, des 3, 4, 5 milliards. Ils dépensaient en cours d'année, puis à la fin de l'année, il y avait quand même un surplus. Fait qu'il a surfé là-dessus, puis s'est fait prendre à la fin en disant « Ouais, attends une minute, on a des méchants problèmes. » Il découvre ça en 4 mois, là, parce qu'il avait prévu 3 milliards de déficit, puis c'est 11 milliards. Il découvre ça en 4 mois que c'est 8 milliards de plus que prévu. Ah oui, mais on met une provision de 1,5 milliard. Correct. Enlève-la, ta maudite provision de 1,5 milliard. Il reste toujours bien 9,5 milliards. Fait que là, pourquoi il s'est pas servi de ces années de forte croissance-là, de pénurie de main-d'œuvre pour corriger les aides aux entreprises que là, il est en train de corriger? Là, il dit, il va falloir corriger les aides aux entreprises. Mais moi, je te signale que ça fait 10 ans que tu subventionnes à gros prix l'industrie du multimédia sur le plateau Mont-Royal, justement, tout sur le plateau chez nous. Et puis, et qu'on n'en avait pas besoin parce que ça créait une telle surenchère de demandes sur les loyers commerciaux, sur les loyers résidentiels. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Ça fait 10 ans que tu aurais dû te rendre compte que ça servait à rien. La subvention aux véhicules électriques, là, ça a servi presque uniquement à faire augmenter le coût des voitures électriques. Ça n'a pas servi à diffuser plus la voiture électrique parce qu'il n'y en avait pas plus des voitures électriques. Fait que ça a créé de l'inflation. Ça fait 10 ans que les écologistes le disent, ça. La taxe sur l'essence, que tout le monde a dit, ben pourquoi tu remplacerais pas un peu
Attends un peu. Ouais. Je voyais hier un tableau sur la vente de véhicules électriques. C'est quand même au Québec où il y a une pénétration de marché très forte.
Au Canada, oui.
Au Canada, là, je pense.
OK, c'est cool, mais on n'en avait pas besoin d'autant.
Peut-être.
Parce que on n'avait pas besoin d'autant parce qu'on a acheté des véhicules électriques de grand luxe. C'est ça qui s'est passé, à 60 000 $ et plus. Là. Ouais.
Mais oublie pas là que le gouvernement devait envoyer un message aux constructeurs que c'était possible de développer un marché du véhicule électrique au Québec. Puis ce que le Québec a fait, c'est-à-dire offrir une subvention, il y a beaucoup d'autres juridictions qui l'ont fait. Ontario, ils ont mis fin à la subvention en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ventes ont vraiment brutalement chuté. Et les concessionnaires automobiles ont pu acheter des voitures électriques de l'Ontario qui ne se vendaient plus en Ontario.
Les acheter au Québec, les amener au Québec, oui. les garder 6 mois, les vendre en Floride.
Oui.
Non, mais je suis d'accord avec tout ça, là. Mm. Mais il y avait une autre façon de procéder, plus courageuse. C'était de faire un mix entre la subvention pour la voiture électrique, peut-être moins importante, pour pas générer un marché de pénurie, et en même temps, taxer les gros véhicules à essence. Les gros véhicules à essence. D'ailleurs, ils envisagent de le faire. Au lieu de faire ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis aux municipalités d'ajouter un tarif sur l'immatriculation pour les gros véhicules. Mais dans la CMM, dans la ville de Montréal, la CMM, pas au-delà. Donc, il y avait toutes sortes de moyens qu'ils pouvaient faire, comme par exemple gérer le télétravail. Les conventions collectives, là, 17%, 17,9%, clic, 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 la machine a distribué de l'argent. Pendant ce temps-là, en télétravail, on découvre qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça représentait un avantage important, puis le fait d'être à pied d'œuvre, un désavantage important. On n'a jamais géré ça. Il n'a pas géré les finances.
Mais si on, si on résume ça, le gouvernement a joué longtemps Père Noël. Ils auraient dû s'inspirer de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Et là, ils se retrouvent dans un contexte où l'économie a ralenti. Les profits d'Hydro-Québec ne sont pas au rendez-vous. Le taux directeur a plombé la croissance économique. Alors, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, le gouvernement se retrouve gros gens comme devant à se dire là... Ben là, il faut couper dans les dépenses, puis il faut faire du ménage. D'ailleurs, quand M. Legault dit, il nous dit, on va réduire la bureaucratie, là, on part tous à rire, puis vraiment d'un rire bien gras, les amis, parce qu'il n'y a personne qui croit que le gouvernement peut réduire la bureaucratie.
On va mandater la bureaucratie pour réduire la bureaucratie.
Ben, exactement.
On peut anticiper le résultat.
Mais il y a eu combien d'exercices comme ça, Nathalie?
Moi, j'ai participé à l'effort de réingénierie de l'État en 2003. Oui, je peux vous dire, quand tu demandes à l'appareil administratif de s'auto-saboter, on s'entend.
Si j'ai bonne mémoire, il y avait quelque chose comme 147 postes qui avaient été identifiés par l'exercice, la première version.
Non, mais nous, les ministres, on avait tous été mis à contribution. On avait un délai là, X, puis là, il fallait identifier dans le ministère qu'est-ce qui pourrait être... Puis l'exercice, là, c'est arrivé un peu plus tard que 2003, là, mais tout de même, ça avait duré plusieurs mois. Le problème, c'est que tu peux faire ça, mais pour le poste de fonctionnaire que tu annulais, ben t'en as deux autres qui se créaient. Puis là, les gouvernements changent après ça, ben on arrive. M. Legault, ils ont créé 4000 postes, nouveaux postes de fonctionnaires durant leur mandat. Fait que la réaction de M. Legault, c'était de dire quoi? Ben on va recouper des postes de fonctionnaires. Ben là, attendez une minute, là. C'est pas parce que tu crées des postes de fonctionnaires, des nouveaux postes de fonctionnaires que...
Ils sont tous inutiles.
Exactement. Lui, il dit, ben il y a peut-être quelque chose à faire sur le plan administratif. Il faut pas couper les postes en santé et en éducation. Alors, on a vraiment encore une fois l'impression que le gouvernement n'a pas de boussole sur le plan politique. Et puis, c'est quoi la trame de fond de ce gouvernement-là? Là? Tu sais, c'est comme... dans le fond, là, on va retenir quoi de ce gouvernement-là à la fin de son présent mandat? C'est un gouvernement qui aura beaucoup dépensé. Oui, qui a relevé des défis durant la pandémie, mais qui aura beaucoup dépensé et puis qui, finalement, n'aura pas eu le courage de prendre des décisions.
Mais c'est pas le propre des gouvernements, j'allais dire. Tu sais, quand tu as du cash qui rentre, tes coffres sont pleins, tu as une vision court terme, tu penses pas à 3-4 ans d'avance, tu dis, moi, là, je vais faire des baisses d'impôts, je vais envoyer des 500$ parce que j'ai de l'argent. Puis, s'il n'y en a pas, ben on fera un déficit. Puis, tu comprends?
Mais ça dépend.
En santé, là, est-ce qu'on met beaucoup d'emphase sur la prévention ou c'est sur le curatif?
C'est sûr.
C'est toujours pareil.
C'est la même chose. Hey, Hydro-Québec, pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, non, mais Hydro-Québec, Caliboire, il a ça considéré. Il a donné des rabais de 20% sur le tarif L à plus de 500 entreprises.
Mais ça fait longtemps, ça.
Non, c'est il y a deux ans.
Non, mais c'est parce que c'est renouvelé. Ça s'inscrit dans une stratégie industrielle. Ben, tu comprends? Pour industrialiser le Québec. T'sais, je sais que tu déchires ta chemise souvent sur les tarifs qui sont consentis à l'industrie de l'aluminium. Mais savais-tu qu'on est en train de se faire dépasser par la Chine, entre autres?
Ben, tant mieux qu'il y a en face l'aluminium parce que c'est lui qui la consomme.
Oui, mais notre aluminium sera de moins en moins compétitif sur le marché international.
Oui, mais,
c'est ça la réalité, mon cher Luc.
Ben, Nathalie, moi, la réalité, c'est que là, Hydro-Québec, ils ont une année de réservoir faible, puis là, ils disent, oups, 1 milliard en moins, peut-être l'an prochain, ça va être 1,5 milliard. Non, l'an prochain, ça va aller mieux. On a regardé ça, là, ça va être bon. Hey, t'as-tu trouvé qu'il y avait beaucoup neigé, toi, en fait, cet hiver? Non, cette année, ça va être bon, cette année. Quand tu dis courte vue, là, c'est très courte vue.
Calme-toi, là.
Non, mais le gouvernement doit être plus prudent.
Voilà.
Puis anticiper, éviter d'anticiper ce qui s'en vient avec des lunettes roses, là. Vraiment, on s'attend un petit peu plus de sérieux de leur part.
Merci, on vous retrouve demain.
C'est 23.